Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Il a bousculé avec férocité les injonctions morales pour repenser notre société. En interrogeant la pornographie, la prostitution, mais aussi le blasphème, l'inceste ou le clonage, il démontrait comment les valeurs intangibles peuvent devenir un instrument liberticide. Il était sympathique et même doux avec sa tignasse, son humour et sa bonhomie, présent à l'autre et au moment, mais il posait les questions qu'on évite avec application. Et d'abord, qu'est-ce que la liberté de chacune et de chacun ? Juliette Hilaire et Annabelle Brouard nous proposent aujourd'hui d'explorer le parcours de Ruven Augien, philosophe singulier.
Beaucoup de philosophes s'occupent encore aujourd'hui de la question de savoir qu'est-ce qu'une vie réussie, ou même qu'est-ce qu'une vie heureuse, quel est le sens de la vie. Tandis que pour moi, ce qui marque un peu le début de l'éthique minimale, c'est de renoncer à ces questions. Dire ça ne nous intéresse plus, ces questions obscures de savoir quel est le sens de la vie, la question de savoir ce qu'est une vie heureuse, laissons-le aux experts, psychologues, psychanalystes, et la question de savoir ce qu'est une vie réussie, laissons ça aux chroniqueurs mondains, mais pas aux philosophes, ils n'ont rien à dire là-dessus.
Pourquoi serait-il contraire à la dignité humaine de vendre ses capacités à donner du plaisir sexuel ou à porter un enfant pour autrui et non de vendre son habileté ou son intelligence? Voici le genre de questions qu'aimait poser le philosophe Ruven Augien, déconstruisant les idées toutes faites sur le bien et le mal, le juste et l'injuste. Au fil des pages de ses nombreux livres, l'auteur en vient ainsi à approuver la vente d'organes, l'inceste entre adultes consentants, à mettre sur le même plan le massage et le travail du sexe, faisant vaciller toutes sortes d'évidences et mettant à mal les intuitions morales les plus solidement ancrées.
Qu'y a-t-il de mal dans tout ça? Supposons par exemple que la publicité utilise des projections de sperme sur les visages pour vanter un produit pour la peau, sur les cheveux pour vanter un produit coiffant, qu'elle soit partout. Je comprends pas, on a l'impression qu'il suffit de le dire, de l'affirmer comme vous le faites, pour que la conclusion éthique vienne d'elle-même naturellement, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal?
C'est difficile de suivre la pensée de Ruven. C'est pas juste une pensée ludique, c'est une pensée radicale. Parce que l'intérêt d'une pensée radicale, c'est de mettre en crise nos croyances, nos habitus, et remettre en question ce à quoi on tient, pourquoi on y tient. Est-il légitime même de défendre ce que l'on défend ? C'est-à-dire que c'était un penseur qui nous poussait toujours dans nos retranchements, et contrairement à certains de ses textes, dans la vie avec une extrême douceur.
Ruven, c'était quelqu'un, dans sa pensée comme dans sa vie, qui aimait la nuance et qui aimait le dialogue et qui supportait pas les personnes qui étaient trop sûres d'elles et qui étaient des toutologues, qui parlaient de tout et qui se la pétaient, quoi. Excusez-moi l'expression, mais voilà. Par les temps qui courent, où on a l'impression que les gens veulent s'entretuer dès qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui ne pense pas comme eux, la pensée de Ruven Augien, c'est un exercice de respiration, c'est une bouffée d'oxygène.
Bah, comme la première fois quand on a 18 ans et qu'on lit Nietzsche, c'est une émotion incroyable, on se dit « oh là là, la généalogie de la morale, par-delà bien et mal ». Pourtant, il se revendiquait pas de Nietzsche, Ruven. Mais n'empêche qu'il y a cette même façon d'avoir une philosophie radicale qui nous oblige à revenir au fondement de notre attachement aux valeurs ou aux normes.
Loin d'être détachés des questions morales, les individus semblent souvent trop enclins à juger la vie des autres et à confondre ce qui les choque avec ce qui est injuste ou immoral. C'est en tout cas ce que pensait Ruven Augien, qui traquait le paternalisme sous toutes ses formes. Loin d'imposer sa vision du bien, l'éthique minimale de Ruven Augien voulait, elle, ne s'assurer que d'une chose, que chacun puisse vivre comme il l'entend, du moment qu'il s'assure ne pas nuire à autrui. Ne pas nuire à autrui, cela pourrait être le seul et unique principe de cette éthique minimale aux conséquences pourtant vertigineuses.
Ne dites pas que la conception d'éthique que je défends est une conception qui ne marque pas une limite. La limite, elle est forte, c'est celle de ce qu'on ne peut pas faire à autrui, mais elle laisse complètement ouvert ce qu'on peut faire à soi-même.
Ruven Augien, toute une vie contre le paternalisme.
Le point vraiment central pour son œuvre, c'est celui de ne pas nuire. Tout simplement parce que ce qui guide toutes les réflexions de Ruven Augien, c'est vraiment la critique du paternalisme.
Sandra Laugier, philosophe.
Sur la question du voile, par exemple, il a toujours été très clair. Beaucoup de gens disaient, les pauvres filles qui mettent le voile, en fait, on les oblige, etc. Donc il faut les aider en leur interdisant. Voilà, c'est extrêmement paternaliste de dire ça de ces femmes. Après, évidemment, de gens diraient que ces femmes étaient soumises à d'autres formes de paternalisme. Après, la question, c'était de pouvoir discuter de cette façon et de se poser vraiment ces questions sans avoir des gros préjugés philosophiques ou politiques. Deux types d'attitudes condescendantes, en fait, qui expliquent aux gens ce qu'ils savent très bien eux-mêmes, ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans sa critique du paternalisme dès le départ.
Ruven Augien reprend à John Stuart Mill, notamment dans « De la liberté », le refus du paternalisme et l'idée qu'on doit séparer la morale et le droit et s'opposer à la notion de devoir envers soi-même, qui est une notion kantienne. Cette idée que, justement, la force coercitive des lois n'a de sens que quand on doit empêcher quelqu'un de créer des dommages à autrui.
Corinne Pelluchon, philosophe.
Mais pas, l'État doit pas intervenir pour pousser les gens à vivre de telle ou telle manière, à se marier ou pas. Et c'est vraiment la grande question qu'on trouve chez John Stuart Mill du refus du paternalisme, fort et faible. C'est-à-dire, le paternalisme, c'est l'idée d'intervenir dans la vie d'autrui pour l'empêcher de se faire du mal, paternalisme faible, ou pour le pousser à se faire du bien, paternalisme fort, parce qu'on imagine que cette personne, elle n'est pas assez intelligente pour voir où est son bien. Elle-même. Donc, c'est l'idée qu'on s'octroie le droit de décider à sa place comment elle doit vivre. Et ça, il le refuse parce qu'il trouvait ça infiniment violent. Et je crois qu'il a raison.
Tous les discours qu'on a entendus depuis pas mal d'années, qui consistent à dire que les gens ils croient trop les fake news, ils sont les discours sur le complotisme, qui dénoncent des phénomènes qui sont parfois dangereux, je reconnais, mais ils sont très souvent paternalistes parce qu'ils supposent que les gens, ils sont trop bêtes, en fait, pour lire les informations, regarder la télé. Et donc, on va imaginer qu'ils vont être influencés, alors que les gens qui disent que les autres sont influencés, eux-mêmes considèrent qu'ils sont au-dessus, qu'eux-mêmes ne sont pas influencés. C'est une position qui est quand même facilement encouragée par la philosophie morale, parce que les philosophes considèrent qu'ils savent ce que c'est que le bien et qu'il faut l'expliquer aux autres gens. Et donc, c'est pour ça que la lutte contre le paternalisme, c'est vraiment aussi une lutte pour l'égalité et la démocratie, avec l'idée que chacun et chacune est capable, en fait, de juger ce qu'il doit faire.
Le refus du paternalisme, il y a son histoire, il y a un écho puissant dans sa biographie, parce que Ruven, il est né d'une famille juive, il est né... alors évidemment pas dans un camp de concentration, mais il est né dans un camp de déplacement. Et Ruven a, je crois, secrètement, toujours eu cette hantise du fait que ça pourrait recommencer, qu'on pourrait tout à fait avoir un système de domination absolue qui nie toute liberté à certaines personnes, qui les prive de tout, et que ça commence d'une certaine manière dès qu'on tolère cette violence consistant à interdire aux gens de vivre comme ils veulent et à leur imposer des points de vue. Ruven, je pense qu'il avait en lui cette idée que la liberté, c'est un des biens les plus précieux.
Je sais pas si je veux un café. C'était le fauteuil de Rouvel.
Ce fauteuil, cette tapis, ça lui appartenait ?
Ouais. Les deux d'ailleurs. Ah non, et puis ça. Et ça, c'était à lui aussi, ce canapé. Et il y a sa photo là. Tous les matins, je lui dis bonjour, s'il est là maintenant.
Jackie Catou, ami d'enfance.
Je ne me rappelle plus quand on s'est rencontrés. Je ne sais pas, on va dire, il est 15 ans. C'était un jeune et grand footballeur. Il dribblait comme un fou. Enfin, c'est un très bon. On a trouvé des accointances entre nous, voilà, de sympathie intellectuelle, et voilà. Et on ne s'est plus quitté depuis ce jour-là. Ses parents, ils tenaient un magasin au marché aux puces de fringues. Moitié d'occasion, moitié neuf, un peu tout et rien. On allait de temps en temps, on leur disait bonjour.
Mon père était tailleur, donc ce qu'il savait faire, c'était ça, faire des vêtements. Ma mère devait aider à ça. Mes parents sont partis en 1945 de Pologne.
Albert Augien, frère de Ruven Augien.
Ils sont partis, ils ont fui du ghetto et ils ont été hébergés pendant 2 ans par des paysans polonais. Et ils avaient à ce moment-là déjà un enfant. Ils ont fait un chemin normalement qui devait les emmener vers l'Amérique. Et en cours de route, je sais pas, ma mère a dû tomber enceinte et puis ils se sont arrêtés un moment dans un camp géré, je crois, par les Américains en Allemagne. Il est né dans ce camp. Et puis donc, ils ont repris la route et ils sont arrivés en France vers 1949. Mais ce qui était certain, c'est qu'on ne rentrerait pas en Pologne. Donc, il y avait un moment très clair où on s'installait. On vivait en France.
Quand ils sont venus à Paris, il n'était pas français, il était apatride. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, il était apatride. Enfin, même après, puisque on est partis en voyage tous les deux. Et à chaque pays, on l'arrêtait, on lui demandait ses papiers. Enfin, ça a été vraiment la galère.
J'avais ces papiers blancs de réfugié et apatride, et c'est vrai que j'ai plutôt un sens cosmopolite et j'étais marqué par cette qualification d'apatride, et je pense que c'est quelque chose qui me qualifierait plus. Je suis retourné, je suis allé en Pologne, je n'étais jamais allé à l'invitation du Centre culturel français.
Ruven Augien, 2009.
J'étais évidemment très ému, mon nom, Augien, est un nom polonais qui signifie feu. Enfin, et c'était étonnant de les voir eux comprendre ce nom qui a l'air un peu bizarre ici, ou difficile à prononcer. Pour eux, c'était tout à fait naturel. C'était un nom comme, je sais pas, La Flamme, Pierre, enfin. Et puis, je présentais à ce moment-là quelque chose sur la pornographie. C'était le livre que j'avais écrit. Et c'était assez amusant de voir, donc, sur l'avenue Jean-Paul II, des affiches qui annonçaient. Alors, je trouvais que c'était un peu une sorte de pied de nez, un peu ironique, ce retour avec ce thème un peu choquant. La peste juive revenait.
La peste juive revenait sous la forme d'un émissaire qui aimait les prostituées.
La pornographie, c'était le cas.
Et la pornographie.
C'est l'idée des crimes sans victime.
Archives 2010.
Mais ce qui caractérise donc ces actes qui sont dirigés contre vous-même et qui sont des formes de nuisance à vous-même, vous y consentez en principe. Alors évidemment, on peut discuter jusqu'à quel point, mais ça sera ça ma limite. C'est-à-dire qu'il y a une notion, par exemple, dans l'automutilation, si vous vous tatouez de la tête aux pieds, si vous avez envie de vous droguer, après tout, vous y consentez, donc vous ne vous causez pas de tort au sens qui m'intéresse, au sens moral et juridique. Et ça, si vous voulez, ça a été toujours au centre de ma réflexion. L'idée que nous n'avons pas de devoirs moraux envers nous-mêmes. Je crois que c'est surtout pour ça que je me sens seul. J'arrive toujours à trouver quelqu'un qui n'est pas paternaliste, quelqu'un qui est d'accord pour foutre sa vie en l'air. Je peux toujours trouver quelqu'un, mais quelqu'un, un philosophe, qui accepterait que nous n'avons pas de devoirs moraux envers nous-mêmes, ça, il faut vraiment le chercher avec une lanterne.
C'est un penseur des distinctions, cause, raison, dommage, offense, morale, droit. Lui, il s'en tenait à une éthique dite minimale, où il s'agit de ne pas créer de dommage à autrui, et les lois sont faites pour ça. Une offense, c'est un comportement que les mœurs réprouvent. Et alors évidemment, ça change selon les siècles. À une période, l'homosexualité était considérée
comme quelque chose de mal au niveau des mœurs. Nommer l'offense, c'est quelque chose donc que les mœurs éprouvent, mais ça ne fait pas de mal à autrui. Ça choque le bourgeois, on va dire. Le dommage, c'est faire du mal à quelqu'un d'autre. Et du coup, eh bien, l'État doit punir ces délits.
Dans le blasphème, vous moquez du dieu d'une religion, les personnes concernées pratiquant cette religion le vivront comme une véritable offense à leur dieu et à elles-mêmes.
Monique Cantos-Pierbert, philosophe.
Mais les personnes qui sont d'une autre religion, qui sont complètement athées, ne verront pas du tout en cela quelque chose qui porte un tort. C'est juste bon, désagréable à entendre, mais il suffit de pas croire en Dieu pour ne pas le ressentir négativement. Tandis, quand vous donnez un coup de poing à quelqu'un, qu'il soit chrétien ou d'autres religions, là, c'est vraiment un tort, objectivement, un dommage qu'on constate.
Pour Ruven, un exemple, la prostitution, pour lui, le fait d'utiliser son corps et d'en tirer des bénéfices, voire des rapports sexuels tarifés, bien, c'est pas quelque chose qui doit être considéré comme un délit, mais ça peut choquer le bourgeois. Et en ce sens-là, je trouve que c'est très sain, cette distinction, parce que ça évite cette contrebande contaminante de jugements moralisateurs en politique. Ça évite de criminaliser des actions que, certes, on ne trouve pas formidables d'un point de vue moral, qu'on peut réprouver au niveau moral, mais qui ne créent pas de dommages, qui ne font pas des personnes des délinquants. Et ça, c'est quand même très important.
Donc ça, c'est un domaine, le domaine de la sexualité, et c'est quand même un domaine très, très important, parce que tout son travail sur la pornographie vient de là. Tant qu'il n'y a pas atteinte à autrui et absence de consentement, il n'y a aucune raison de limiter la pornographie, de limiter l'accès à la pornographie.
Il parle de l'inceste aussi dans ses textes. Je pense que l'inceste, du moment qu'il est consenti et pratiqué entre adultes consentants, est moralement neutre.
On ne parle pas d'inceste entre un père et une petite fille ou entre une mère et un petit garçon. Mais quand on est un moraliste minimal comme Ruven, on ne considère pas que l'inceste est une faute morale. On refuserait de qualifier ça de faute morale.
De la philosophie, il n'en parlait jamais. Avec moi un peu, mais sinon il aimait bien faire des blagues. Il parlait du cinéma, du théâtre, de la danse, il aimait beaucoup. Il avait beaucoup d'amis qui étaient soit danseurs, soit acteurs, soit faisaient du théâtre. Il se levait à 7h du matin, jusqu'à midi, il écrivait, et après l'après-midi, il était libre, il allait au théâtre, il allait au cinéma, et puis on faisait beaucoup de fêtes, on a fait beaucoup de fêtes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, on peut pas le cerner, il est incernable, je trouve. Il a toujours été mystérieux, inventif, comme dans ses livres, donc c'est toujours surprenant. Puis à chaque fois qu'il faisait même une conférence, il voulait toujours, même si c'est sur le même thème, il travaillait comme un dingue pour que ce soit nouveau.
Et vous n'avez pas été par contre dans le même lycée ?
Pas du tout, lui il était à Jacques de Cour, il était premier partout et moi j'étais dernier partout. Donc j'ai fait les boîtes de tout Paris, j'ai fini à la Schola Cantorum. Pareil à la fac aussi, c'était étonnant. 10 minutes avant, il lisait un livre et il s'en souvenait complètement. Il avait une mémoire phénoménale. D'ailleurs, je disais, t'es pas un homme, t'es une machine, t'es un ordinateur. On a écrit 2-3 livres ensemble, les premiers, avant qu'il parte de son chemin majestueux. Le premier, c'est Ethnographie nulle part. On a suivi des migrants ici à Aix-en-Provence. Un autre, c'était sur la pauvreté. Ses parents étaient d'amis ouvriers, donc ça, il est toujours resté de ce côté-là. Et alors tous les matins on écrivait, lui à midi il avait terminé, il avait écrit 10 pages, moi j'avais écrit une demi-page. Voilà, c'était terrifiant. Il détestait enseigner. Il a enseigné une année, c'était à la Sorbonne d'ailleurs, il a mis 19 à tout le monde. Là c'est un rapport d'autorité, il était tout sauf autoritaire, donc jamais il aurait dit « taisez-vous », ça c'était impossible. Si tout le monde parlait, il s'en fout complètement. Mais je sais que son premier cours... Il a pris la première page de Kant, il a montré toutes les bêtises que Kant avait dit, et qu'il ne fallait pas, comme ça, admirer les philosophes comme si c'était les plus brillants du monde. Il trouvait ça drôle, et puis de s'opposer à Kant, à Aristote, enfin à tous. Hein. Il n'y en a pas un qui ne passait pas à la casserole.
Le lui a certainement été le meilleur élève de la fratrie.
Albert Augien, frère de Ruven Augien.
Vers la fin des études, on lui a proposé d'intégrer l'école des Chartes. Et il se fait que personne à la maison savait ce que c'était que l'école des Chartes. Comme c'est nous qui remplissions les bulletins, qui signions tout pour nos parents, et que certainement mes parents étaient dans l'incapacité à apprécier d'une quelconque manière ce que ça pouvait représenter dans une trajectoire scolaire d'aller à l'école des Chartes. Donc on se les racontait beaucoup après, en sachant comment les carrières de gens bien nés s'orientent. Ce qui fait qu'il n'a pas été à l'école des Chartes. Nos trajectoires sociales se sont rapidement inscrites dans un militantisme sioniste. C'est une génération de jeunes garçons et filles qui ont subi les affres du nazisme, se sont sentis un peu juifs quand même. Tous les trois frères, on était dans ces choses-là, on était totalement orientés vers le départ en Israël à 18 ans.
On était même au kibboutz, on a commencé par le kibboutz. Puis on a très vite déchanté, lui et moi, et on n'en pouvait plus, donc on est parti.
Jackie Katou, ami d'enfance.
On a continué un peu à faire nos études là-bas. Lui était obligé de faire l'armée, donc il n'avait pas le choix, mais moi j'avais pas le... Je suis rentré très vite et je me suis installé à Aix-en-Provence, il m'a rejoint après. Il est retourné plusieurs fois en Israël, tous les deux ans il retournait, contrairement à moi qui refusais de retourner tant qu'il n'y avait pas la paix. Lui il retournait tout le temps en ayant la même position que moi, qui trouvait... que le gouvernement israélien était un gouvernement de fascistes, hein, mais il allait voir ses amis quand même à Tel Aviv.
C'est passé complètement différemment de ce que j'attendais. J'ai été d'un coup confronté à la guerre, au militarisme.
Ruven Augien, 2009.
Ça, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à l'autorité. Mais la deuxième rencontre, peut-être aussi importante, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est celle de la philosophie analytique, puisque j'ai étudié à Tel Aviv et c'est là-bas que j'ai découvert cette façon de penser, de philosopher, qui m'a séduit par son côté un peu scientifique, son austérité, sa sobriété, et puis l'humour qu'il y avait dedans, ça correspondait un peu aussi à ce que j'avais envie de faire. Donc j'étais parti pour une grande expérience sociale, et puis je suis revenu avec une sorte d'horreur de la guerre, et puis la philosophie analytique dans la tête.
J'ai connu Ruven Augien de longue date parce que il suivait, comme moi, les séminaires de Jacques Bouvresse.
Sandra Laugier, philosophe.
C'est vraiment notre maître commun. Je voyais quelqu'un qui avait un air très très chic, très mystérieux, avec les cheveux noirs, un look qui n'était pas celui des autres étudiants. Donc j'étais intriguée, mais je ne le connaissais pas. Je l'ai connu parce qu'il a fait un ouvrage sur la honte. Je trouvais que c'était un livre très provocant et par les thèses qu'il défendait, mais aussi à cause de sa méthode finalement. Parce que moi, à l'époque, je travaillais en philosophie du langage sur Wittgenstein, et c'est vrai que j'étais absolument admirative que quelqu'un traite de questions de philosophie morale, mais en partant de la philosophie analytique et l'analyse des mots et l'analyse aussi de situations ordinaires. Il faisait, c'était imaginer une situation, un contexte différent pour le raisonnement de la personne à qui il s'opposait. Et donc ce raisonnement montrant qu'il était complètement dépendant d'un contexte et qu'on ne pouvait pas l'amener dans un autre contexte.
Il utilise les outils de la philosophie analytique.
Corinne Pelluchon, philosophe.
Et les expériences de pensée qui parfois... semble un peu provocatrice parce qu'il s'agit de nous faire prendre conscience de nos préjugés et de nos angles morts et du fait que parfois nos intuitions sont fausses. Et du coup, les expériences de pensée, la philosophie analytique pointe cela, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il avait une certaine modestie. Il voulait non pas couper les cheveux en quatre, mais qu'on sache un peu de quoi on parle quand on parle, pour ne pas habiller de mots très pesants, comme dignité, etc., des opinions finalement particulières et qu'on ferait passer à tort pour universelles, en les imposant. Et vous voyez à quel point, à chaque fois, son grand souci, c'était d'éviter cette violence qui consiste à faire passer pour générale et universelle des idées qui sont finalement celles de son groupe.
Il faut savoir si ce qu'on peut vendre et ce qu'on ne peut pas vendre dans une société dépend de normes morales universelles ou si ça dépend simplement de l'état de la culture à un moment donné.
Ruven Augien, 2010.
Or, la thèse que je défends en général, c'est simplement de dire il y a toujours une distribution entre ce qu'on peut vendre et ne pas vendre. Évidemment, il peut s'agir de charges politiques, toutes sortes de choses. Ou c'est un exemple que je donne aussi, les chanteurs d'opéra n'avaient pas le droit de se faire rétribuer ou du moins ils le faisaient en courant le risque de se faire traiter de prostituée. Si vous imaginez aujourd'hui Placido Domingo pourrait être mis à l'amende pour racolage actif quand il fait de la publicité pour ses programmes. Bon, on n'en est pas du tout là. Donc d'accord, ça a changé, c'est sûr. Le fait qu'aujourd'hui on ait ce rapport à l'égard de la vente du corps est quelque chose dont il faut savoir si ça relève de normes morales, comme celle de la dignité humaine, ou s'il s'agit simplement d'un état des mœurs, donc qui peut changer. Et comme les gens ne le savent peut-être pas assez, l'argument de la dignité humaine est en train de prendre une importance plus grande dans le droit, mais non pas parce que pour protéger les libertés individuelles, mais pour les contrôler, pour les limiter, pour que les personnes n'aient pas le droit de faire ce qu'elles veulent, comme elles auraient envie de leur corps. Je pense que si on estimait qu'il existe un besoin fondamental à avoir une vie sexuelle épanouie, et si on a une conception des droits qui identifie les droits avec des besoins fondamentaux des personnes, on aura une justification, un droit d'avoir une assistance sexuelle remboursée par la Sécurité sociale.
Maintenant, la comparaison qu'il fait entre le massage ou le travail du kiné et la prostitution, alors elle a pour but, comme en philoanalytique, comme avec ses expériences de pensée, de nous pousser un peu à bout pour qu'on prenne conscience du fait que quelqu'un qui choisit de rendre des services sexuels évidemment tarifés, comme un métier, bon, pourquoi en ferait un délinquant? Alors qu'on ne va pas faire du kiné un délinquant. Ben parce qu'on a une sorte d'essentialisation de tout ce qui est génital. Donc il a raison. Bon, néanmoins, on a envie de lui dire, bon, ben c'est vrai, Ruven, mais enfin, dans la vie, c'est pas pareil de faire un massage ou d'arracher une dent et de faire l'amour avec quelqu'un ou de coucher avec quelqu'un. Bon. Et il décrit les choses à la troisième personne, ce corps. C'est le cœur-peur. Comme dirait Husserl, c'est le corps organique, ce n'est pas le corps vécu, le corps animé, le corps affectif. De toute façon, aucune argumentation, approche en morale ne résout tout. Et je crois que moi, ce que je reprocherais à la philosophie analytique, c'est de tenir un discours qui gomme le vécu, qui gomme donc la première personne, qui gomme l'expérience et qui pense le corps seulement de manière impersonnelle, alors que le corps, il est le point de contact entre moi et le monde, entre moi et les autres.
J'ai essayé d'éviter complètement cette question métaphysique, comme j'essaye de le faire d'ailleurs à chaque fois dans mon travail.
Ruven Augien, 2010.
Je suis parti simplement du fait qu'on peut donner son corps, on peut mettre à la disposition d'autrui gratuitement son sexe pour le plaisir de quelqu'un d'autre, de la même façon qu'on peut mettre gratuitement à la disposition d'autrui ses organes, les produits de son corps comme le sang, le sperme. Et la seule question que je me suis posée, c'était de savoir si je peux donner quelque chose, pourquoi ne puis-je pas le vendre ? Pourquoi les rapports sexuels gratuits, qui sont parfois atroces et humiliants, ont toujours une sorte de priorité morale? On a toujours l'impression qu'ils sont mieux que des rapports sexuels qui sont payants.
Mais en fait, partons de la réalité des existences. Il existe des pratiques diverses et variées qui ne répondent effectivement pas à l'approche morale de l'existence. Il y a des personnes qui décident de louer ou de vendre leur corps de diverses manières. Ce sont des pratiques qui existent.
Patricia Alliot, autrice, metteur en scène.
Le penseur n'est pas là pour avoir un jugement moral sur ces pratiques, ni encore moins n'est là pour éradiquer ces pratiques. Donc au contraire, on est là peut-être pour défendre une vie plus juste et les droits de ces personnes qui, en général, en plus, sont dans la catégorie des plus pauvres de la société. Et donc, pourquoi ajouter une persécution à une vie précaire, comme il disait? C'était toujours son argument dans sa défense, par exemple, des travailleuses et travailleurs du sexe. C'est-à-dire qu'en fait, son obsession, c'est l'égalité des droits. Mais en même temps, il a tellement parlé de liberté, et de manière tellement provocatrice et drôle, et à la manière d'un immoraliste, ou dans une tradition, pour le coup, là, très française, à la Voltaire, ou même très nietzschéenne, d'une façon de vouloir renverser vraiment les normes et les valeurs d'une manière très provocatrice, quoi.
Le thème qui court à travers toutes ces réflexions sur la pornographie, mais c'est le cas aussi sur le clonage, c'est comment pouvons-nous vivre avec une éthique minimale ?
Ruven Augien, 2003.
Accepter des principes assez simples qui sont ceux de la neutralité à l'égard des conceptions métaphysiques, religieuses et des conceptions traditionnelles du bien, un principe négatif de ne pas causer de tort à autrui, un principe positif d'accorder la même valeur à la voix de chacun. Et je pense que si on peut faire une hypothèse plus générale, que notre panique, elle vient en partie du fait que nous n'arrivons pas à nous en tenir à ces principes qui sont valables pour des démocraties laïques et pluralistes comme les nôtres.
Ce qui était vraiment important pour lui, c'est de dire que la morale n'est pas réservée aux philosophes de la morale. N'importe quelle personne ordinaire prend des décisions morales. Comment elle fait si elle n'a pas lu Kant, Wittgenstein, etc. Donc c'est une vraie question. Et donc la morale, elle est quand même dans tout ce qu'on dit, dans ce qu'on fait ordinairement. L'an dernier, oui, je pensais à lui, parce que quand on disait les réunions non mixtes, alors là, c'était la fin du monde, quoi. Comme le voile, d'ailleurs, la GPA. Et donc, son concept, en fait, la panique morale, c'est se focaliser sur des choses qui sont effectivement un peu à la limite, qui peuvent être vraiment des avancées pour les droits de certains, et considérer que c'est un vrai danger. Et d'ailleurs, je pense que toute la discussion qu'il y a eu l'an dernier autour de l'islamo-gauchisme, le ministre Blanquer qui a expliqué que le fait qu'on enseigne le genre à l'université, que c'était quelque chose qui était extrêmement grave et une menace pour les libertés. Et dans un second temps, ce qu'aurait dit Ruven, c'est que pourquoi ça suscite cette réaction? Parce que on va considérer que ça va donner trop d'espace à des personnes qu'on va considérer comme dangereuses. Et donc pour la GPA, c'est un exemple aussi de panique morale qui a été suscitée par l'idée qu'on puisse embaucher quelqu'un pour porter un enfant. Et donc là, ça touchait vraiment à des tabous assez profonds.
Moi, je suis pour la légalisation de la gestation pour autrui, mais je ne suis pas d'accord non plus avec cette façon sentimentaliste d'argumenter. Je sais qu'on gouverne aujourd'hui à coup d'émotion, mais je préfère en revenir aux principes démocratiques. Le premier, c'est la norme qui permet aux personnes de disposer librement d'elle-même dans la mesure où elle ne cause pas de tort aux autres. C'est cette norme qui a permis de justifier la liberté de procréer et de ne pas procréer, c'est-à-dire le droit d'avorter, le droit aussi de disposer des produits de son propre travail et le droit à l'intégrité physique.
Ruven Augien, 2009.
Bon, ça, c'est cette norme qui me paraît importante. Je ne vois pas comment on peut défendre la liberté d'avorter si on ne pense pas en termes de libre disposition soi-même. Il existe une autre norme démocratique, une norme de solidarité qui nous demande d'essayer de compenser, dans la mesure du possible, les inégalités injustes, c'est-à-dire celles qui viennent de la naissance ou de la nature. Eh bien, si on applique ces deux principes, j'ai l'impression que ce qui devrait en découler naturellement, c'est que la gestation pour autrui devrait être égalisée. Alors, évidemment, si on n'est pas démocrate, c'est-à-dire si on rejette ces deux principes, le principe de la libre disposition de soi et le principe de la solidarité, je comprends qu'on soit contre la gestation pour autrui. Mais si on les admet, comme tout démocrate devrait le faire, j'ai du mal à comprendre sur quelle base on peut la refuser. Je crois qu'il faudrait des raisons très impérieuses de déroger à ces principes, et je crois qu'il n'y en a pas.
On ne voit pas une femme bourgeoise du 6e arrondissement qui va porter un enfant pour quelqu'un de Seine-Saint-Denis. Hein. Donc bon, malgré tout, ce n'est pas quelque chose de complètement neutre. Je crois malgré tout que la question du consentement doit aussi impliquer la situation sociale des personnes. Et c'est pas parce qu'une personne est suffisamment mûre et informée effectivement pour donner son consentement qu'elle est en position sociale de donner ou de refuser son consentement.
Parmi les raisons qui peuvent invalider l'idée du consentement, il y a, lorsqu'il a été fait dans des conditions d'inégalité flagrante, lorsqu'il s'agit d'un contrat complètement inégal, ça peut être une clause d'invalidation, évidemment.
Mais ce n'est pas toujours flagrant.
Non, mais attends, je comprends bien tout ça, mais il faut faire attention.
Vous connaissez des cas de contrat dans des conditions d'égalité absolue ? Moi, j'en connais aucun.
Et moi, je reste sur cette idée qu'il faudrait envisager la question en se disant est-ce que dans une société idéale, communiste, comme vous pourriez l'envisager, la question de la gestation pour autrui, de nos organes, se poserait. Je crois qu'elle se poserait quand même et qu'au fond, cette question de l'argent et des différences n'est pas la principale pour penser ces questions.
Derrière moi, j'ai une partie de la bibliothèque de Ruven. On s'est dispersé les livres de Ruven après sa mort, entre amis. Et moi, j'ai récupéré l'enfer. Toute sa bibliothèque est liée aux minorités sexuelles et de genre. Parce que notre amitié philosophique s'est développée beaucoup quand il était en train d'écrire, penser la pornographie. Je tombe par exemple sur les livres Le désir et la putain, La Madone en fourrure, Marché au sexe de Judith Butler, Oublier Foucault, mode d'emploi, Prostitution et dignité, MacKinnon, Only Words, Culture of Queers, Richard Dyer, Georges Didier Iberman, Quand les images prennent position, Wendy Dolorme, Sexe et sarcasme, Roland Jacquard, Guy Hockenheim, Freud. Là, si je me retourne, Griselidis Réal. Du coup, on avait beaucoup de discussions là-dessus, autour des prohibitionnistes, quel type de prostitution peut être défendue, comment. Évidemment, Ruven était toujours le plus radical. Donc, c'est vraiment un être qui se nourrissait de tout ce qu'il voyait. Et ça, c'est précieux, ça en fait vraiment un complice pour penser aujourd'hui. C'est une forme d'empirisme. Arrêtons de penser à partir de soi et pensons à partir des pratiques. Et ça, il se l'appliquait à lui-même tout le temps. Il allait voir une performance, il écrivait à partir de ça, ou il y réfléchissait. Il écoutait ce que disait une féministe radicale, il l'écoutait. Quand c'est le leitmotiv de nos communautés aujourd'hui militantes, c'est « crois-moi ». Ben, Ruven, c'est « crois-moi ». Il prenait en compte ce que les personnes disaient.
Ce que je dirais en général, mais c'est une position que je pourrais développer aussi pour la fin de vie, pour le travail sexuel, pour les autres, il faut faire attention à ne pas toujours accepter lorsqu'une personne, par exemple, dit qu'elle s'est engagée dans le travail sexuel sans y être contrainte de façon complètement anormale ou excessive.
Ruven Augien, 2003.
J'aimerais qu'on prenne sa parole aussi littéralement que lorsqu'elle dit qu'elle y a été contrainte. Donc, si vous voulez, je n'accorderai pas un privilège d'interprétation au cas dans lequel quelqu'un dit qu'il n'a pas consenti. J'aurais plutôt tendance à mettre sur le même plan la parole de ceux qui disent qu'ils sont libres de faire quelque chose et de ceux qui disent qu'ils sont contraints. Je pense que la question de savoir qu'est-ce que la liberté est une question métaphysique extrêmement complexe. Pour ces matières-là, d'ailleurs, on me le reproche, j'utilise une notion de liberté assez minimaliste, donc qui revient un peu comme au moment du vote des citoyens. On ne leur demande pas s'ils ont été entièrement libres, s'ils ont étudié tous les programmes des partis politiques, s'ils n'ont pas été... On leur demande de ne pas avoir été achetés, de ne pas être corrompus, d'avoir l'âge qu'il faut, de l'exprimer par le vote, qu'on voit clairement sur le bulletin de vote ce qu'il y a écrit.
Depuis, la question du consentement, elle est vraiment arrivée au centre des débats moraux et en particulier féministes. Je pense qu'il pourrait y avoir pas mal de divergences. Mais pour ma part, je trouvais que ça restait quand même extrêmement fort, tout simplement parce que ce qui guide toutes les réflexions de Ruven Ogier, qu'on les apprécie ou pas, c'est vraiment la critique du paternalisme. Et ça, en réalité, le féminisme, au départ, devrait aussi être la lutte contre le patriarcat, mais le paternalisme aussi. Et donc, s'il était, en effet, sur une conception du consentement qui était vraiment très minimale, c'est qu'il considérait qu'effectivement, les personnes étaient tout à fait assez grandes pour décider. Si une fille décide de devenir actrice du porno ou prostituée, elle sait ce qu'elle fait. Il n'y a aucune raison de considérer que c'est une pauvre victime manipulée. Donc c'était vraiment cette vision ancrée dans le troisième principe de l'éthique minimale, qui est de dire que la vie de chaque personne vaut en tant que telle et il faut respecter les choix des personnes. C'est aussi une position qui est assez forte et je pense qu'elle permettrait aussi peut-être d'entrer dans le débat sur le consentement actuel qui là est devenu maximaliste.
C'est pas un philosophe politique, il y a quand même des conséquences politiques de sa pensée, mais c'est pas un philosophe politique au sens où Hannah Arendt, Léo Strauss, Castoriadis sont des philosophes politiques qui pensent vraiment l'institution du bien commun, les institutions politiques, Mais c'est un penseur des limites, c'est-à-dire la distinction entre la morale et le droit, là où il faut pas empiéter. Et là, je crois que Ruven avait vraiment cette idée chevillé au corps de l'égalité morale des êtres. Ça a poussé Ruven Ogier à autoriser, par exemple, toutes les pratiques qui permettaient à l'individu d'augmenter sa liberté, qui ne créaient pas de dommages à autrui. Mais alors, évidemment, c'est un peu le problème. Les vices privés sont possibles. Mais jusqu'où les vices sont-ils privés? La paresse, par exemple, c'est un vice privé. C'est pas beau, mais on va pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il est paresseux. Mais, par exemple, si cela conduit à affamer sa famille, forcément, c'est plus privé. De même, quelqu'un qui boit du matin au soir, s'il a une cirrhose, il va être quand même soigné par la santé. Et la santé, elle est publique. De même, l'euthanasie, ce n'est pas seulement le suicide. Ça implique une structure de soins. Donc, du coup, on ne peut pas penser seulement que le privé nous concerne, nous.
Il y a un concept, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est le concept d'indésirable. Et peut-être que je pourrais lire quelques passages que j'ai ressoulignés dans son livre « Mon dîner chez les cannibales » qui reprend un certain nombre d'articles publiés dans son blog, dans Libé. Et là, il cite explicitement Hannah Arendt. « Réfléchissant sur la condition des exilés déchus de leur nationalité, Hannah Arendt écrit « Leur tare, ce n'est pas d'être opprimé, mais que plus personne ne se soucie même de les opprimer. » Cette phrase plutôt énigmatique pourrait signifier que pour Arendt, il vaut mieux être asservi ou exploité qu'exclu de toute société. Et en fait, il n'a jamais cessé d'être hanté par l'oppression ou la persécution des plus vulnérables et des plus pauvres d'une société. Un autre livre que j'ai devant moi, mais que j'aime beaucoup et que j'ai ressorti régulièrement, c'est « La guerre aux pauvres commence à l'école ». Cette terminologie d'oser parler des pauvres. Il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent en philosophie de « on va parler des vies précaires, on va parler de… » Je ne sais pas, il y a une terminologie qui tourne autour de ça, mais de parler de la pauvreté ou d'une condition de pauvreté. Et c'est tellement actuel. Quand on voit la dernière proposition d'Emmanuel Macron de l'obligation qui serait faite de travailler pour les personnes qui touchent le RSA, mais Ruven serait encore de ce monde, évidemment qu'il aurait déjà écrit un billet dans son blog. Je pense que c'est un leitmotiv philosophique dans toute son œuvre. C'est le combat contre les valeurs. C'est pas parce que c'est un penseur critique de la morale que c'est un nihiliste moral, au contraire. C'est-à-dire que lui, toute son approche, toute son obsession en permanence, c'était de rendre la société injuste plus juste. Et ça passait par une philosophie déflationniste qui critiquait l'utilisation massive des valeurs puisqu'il pensait que c'était une instrumentalisation politique qui desservait la lutte pour l'égalité des droits. Et une société plus juste, ça signifiait quoi pour lui ? On en parlait, c'était très clair, c'était le partage des richesses.
Rue Lapeyrère, qui est la rue dans laquelle Ruven a habité, mais genre hyper longtemps, vraiment comme 20 ans, quoi.
Marilyn Gillois, ex-compagne de Ruven Augien.
Oh, bah, plus que ça, plus que ça, je pense qu'il a pas des... il 30, a jamais
40 ans,
c'est vrai.
Peut-être.
Moi, je le connaissais pas à ce moment-là, mais en tout cas...
Mais apparemment, le salon de la rue Lapeyrère, il existait.
Ouais.
Y a des récits dans les années 90.
Il est revenu de New York, il a pris cet appartement et ouais. Il n'a jamais quitté parce qu'il y avait tellement de livres accumulés que ça devenait improbable de les déplacer, quoi. Il avait des habitudes très ancrées dans le quartier, comme aller acheter le journal à tel tous les jours. Il achetait son journal papier. Et donc, quand il avait fait faux bond à un commerçant, il faisait tout un détour pour pas que le commerçant le voie, pour pas qu'il se vexe par le fait qu'il avait acheté son journal ailleurs. Donc il était très attentif, comme ça.
En tout cas, il était très attaché à cet arrondissement du 18e, quoi.
Toutes ces vieilles rues et du vieux Paris, en fait. Voilà, on arrive devant le 9, le numéro 9 de la rue. Ce petit salon qu'on tenait avec Ruven était un endroit... qui rassemblait. En fait, Ruven avait cette qualité d'amitié, en fait, cette façon d'être très accueillant, chaleureux et d'être très attentif à chacun pour que tout le monde se sente bien et jamais jugé. En fait, c'était aussi un des talents qu'il avait, quoi. C'était de se jamais se sentir supérieur à quiconque et à être attentif pour donner un sens à la parole de chacun. Donc, du coup, ça lui permettait d'accueillir ce petit salon. Très convoité. On pouvait être 5 ou 10 ou 20, quoi. Peut-être plutôt 10.
On avait une petite habitude des fois. Il avait appelé ça le Noël des orphelins. Parce que Ruven avait cet humour juif né un 24 décembre. Donc ça l'amusait toujours beaucoup de le souligner. Et on avait des petits rituels comme régulièrement de passer Noël ensemble. Et là, il y avait une communauté plus agrandie, plus du large. Coup.
Si le nombre dépassait, on allait chez Jackie.
Qu'est-ce que j'en ai fait ? Voilà, là, c'est un, il s'appelait Dougie, hein. Oui, ça, c'était le premier. Il a fait deux albums de... Je sais plus comment ça s'appelait. C'était sur le judaïsme, justement. Il a fait deux albums très drôles.
Ah oui, il avait un vrai talent. Il aurait pu, effectivement, avoir une carrière...
Mais oui, il voulait être peintre. Il voulait pas être philosophe, il voulait être peintre.
C'était des petits dessins satiriques.
Très drôles. Oui, il a gagné sa vie comme ça pendant deux ans.
Et continue à dessiner après, par la suite, ou pas du
tout ? Non, après, il s'est arrêté. Parce qu'il ne voulait plus mélanger les deux.
D'ailleurs, je vois que sur vos étagères, il y a des livres de Ruven Augien.
Il y a tous les livres de Ruven Augien. Je vais vous dire pourquoi. C'est à sa mort, Marilyn, donc une de ses ex-compagnes, et puis Chloé, donc sa nouvelle amie, sont venues ici et elles ont rangé tout ça et elles ont mis tous ces livres. Donc c'est éparpillé. Il y avait aussi dans la salle de bain, mais là, comme j'ai refait la salle de bain, ça a disparu. Il y avait tous ces articles avec différents, Libération, Le Monde, etc.
Il y en a un que vous préférez ou...
Écoutez, je les aime tous. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Évidemment, le plus récent, c'est le dernier, Les Mille et Une Nuits, oui. La maladie comme drame et comme comédie. Évidemment, c'est le plus touchant, c'est là où il parle vraiment de lui et personnellement, donc ça m'a beaucoup touché. Surtout que pendant sa maladie, les 4 ans de sa maladie, Avec moi, on n'en parlait pratiquement jamais. Ça lui arrivait, mais c'était très rare. Voilà. On parlait de toute autre chose. Sa souffrance, il la mettait de côté. Et donc, dans le livre, évidemment, il en parle, donc ça m'a beaucoup touché. Enfin, je l'accompagnais quand même, parce qu'il allait toutes les semaines, il allait faire une chimiothérapie, et très souvent, je l'accompagnais. Mais je l'accompagnais pour prendre le taxi à l'aller, prendre le taxi au retour et parler d'autre chose.
D'une certaine façon, je dirais, comme ça s'est dit pour beaucoup d'autres choses, on n'est pas malade organiquement, on le devient socialement quand on a été catalogué comme tel.
Ruven Augien, 2017.
D'abord dans le regard des autres, mais aussi dans toute l'institution qui se trouve autour de nous, qui va décider qu'est-ce qui, dans cet ensemble de symptômes, de signes, va être une maladie. C'est pour ça qu'au début, je me demandais est-ce que le fait d'être chauve est une maladie ou pas? Est-ce que le fait d'être hyperactif en est une ou pas? Ce sont des états dans lesquels on pourrait affirmer que ça fait partie de la maladie ou pas. Ça a été le cas pour l'homosexualité, qui l'a été, qui ne l'est plus. Mais ça pourrait être le cas, par exemple, pour des choses comme l'andropause, dont les gens ne parlent pas, mais qui pourrait devenir maladie, ou même la vieillesse. C'est un ensemble de dysfonctionnalités qui pourra, à partir d'un moment, être considéré comme une maladie, soignée comme telle, avec ce que ça implique comme remboursement par la sécurité sociale, etc.
La bonne façon de vivre, la bonne façon d'aimer, et aussi une bonne façon de souffrir. Et le dolorisme, c'est ça. C'est ça qu'attaque Ruven. Il y a ce concept, comme il l'explique extrêmement clairement, la douleur, la souffrance aurait une valeur formatrice, aurait une valeur qu'on pourrait même appeler plus grossièrement une valeur positive. Soit de formation de soi, soit d'accès à une plus grande lucidité, d'accès à un meilleur état de soi-même, à des états cognitifs, à des états de désir qui sont plus justes par rapport au monde. Enfin, on se sent plus fort, plus on souffre, plus on se sent fort. Ruven, qui a souffert pendant 4 ans d'une terrible maladie, qui l'a porté jusqu'au bout de ses limites physiques et qui l'a supporté avec un courage exceptionnel, trouvait cela non seulement dépourvu de sens, impossible à prouver, et de plus ridicule.
Tous ses amis l'appelaient Dougie. Moi, le jour où je l'ai rencontré, je lui ai demandé comment il s'appelait, mais il m'a dit « je m'appelle Dougie ». Donc on l'a appelé Dougie. Et après, à l'université, c'est Ruven. Nom officiel, bien pensant, c'est Ruven Augien.
C'est vraiment une personne avec qui c'était intéressant d'être en désaccord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu philosophique, dans le milieu intellectuel, maintenant, il n'y a plus de désaccord possible. Voilà, soit les gens ils racontent tous la même chose de façon super conformiste, soit il y a des désaccords tels que de toute façon, on peut même plus parler. Créer du désaccord, mais de façon très créative et collective. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment perdu aujourd'hui.
Se rappeler le beau visage de Ruven Augien, sa grâce, ce qui faisait ce caractère unique et le fait qu'il était doué en amitié. Bon, ben écoutez, franchement, moi je suis très heureuse d'avoir croisé son chemin.
C'était un vigile un peu, comme un être comme ça qui regardait toutes les dérives antidémocratiques en train de se faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut utiliser sa pensée de la même façon, de voir comment il y a une dérive fasciste, totalitariste de nos démocraties.
Par défaut, je dirais que n'importe qui a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Simplement, ce qu'il faut justifier, c'est pas le droit, par exemple, de mettre ses capacités sexuelles à disposition d'autrui. C'est pas le droit non plus de vendre des éléments de son corps. C'est ce qu'il faut justifier, c'est pourquoi l'État aurait le droit d'intervenir pour nous interdire de le faire et de l'interdire de façon souvent violente, coercitive. La question que je me suis posée, évidemment, c'est est-ce que intervenir, non pas pour préserver la dignité à l'égard de la violence des autres, mais à l'égard de soi-même, ce n'est pas une intervention qui serait de type paternaliste, donc de protéger les gens d'eux-mêmes et pas de les protéger des autres. Et est-ce que les interdictions, tout ce qui concerne l'échange marchand autour des organes et capacités corporelles, contribuent réellement à améliorer la justice sociale? Et j'essayais dans mon livre de montrer que ce n'était pas le cas.
Ruven Augien, toute une vie contre le paternalisme. Avec Corinne Pelluchon, Monique Cantos-Pierre-Vert, Sandra Logier, Jackie Catou, Patricia Alliot, Albert Augien, Marilyn Gillois. Prise de son, Benjamin Perru. Mixage, Guillaume Ledu. Archivina, Delphine Desbiens. Un documentaire de Juliette Hiller, réalisé par Annabelle Brouard.
C'était toute une vie, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Podcast, réécoute, bonus, à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.